Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Radio Grand Papier, votre rendez-vous mensuel de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir à tous, bonsoir Johanna, bonsoir Stéphane, bonsoir Nicolas,
bonsoir.
Vincent va nous rejoindre,
bonsoir.
Et nous avons aussi Bertrand au micro.
Bonsoir.
Voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, au sommaire, les rubriques nouveautés habituelles, la rubrique autour du paysage, on vous parlera aussi des éditions Nobro, nouvel éditeur dans le paysage francophone, nouvel éditeur anglais. Et on accueillera en seconde partie d'émission Nilso et Marisor. On vous en parlera un peu plus tard. Et donc on voulait commencer, avant de parler des nouveautés, faire une sorte de feedback, on va dire, de Pierre Feuille Ciseaux 3 qui s'est déroulé il y a maintenant 2 semaines, plus ou moins, auquel Nicolas participait et aussi Bertrand. Donc sous 2 aspects différents, ils vont nous faire un petit retour de cette expérience dont on vous parle souvent.
Juste rappeler que PFC, donc une résidence d'auteurs organisée à Arc-et-Senans dans les Salines Royales par l'association Shifumi depuis 3 ans et qui est une résidence qui dure une semaine pendant les 5 premières journées des auteurs belges et français. Et aussi belges sont donc invités.
Et étrangers aussi cette année.
Et étrangers, donc il y avait déjà quelques auteurs étrangers qui participaient. Cette année a été une année particulièrement importante puisque beaucoup d'auteurs ont été invités, que ce soit d'Afrique du Sud, de Liban, d'Argentine, un peu partout dans le monde, ce qui rendait la chose d'autant plus passionnante. Donc pendant ces 5 jours, les auteurs vont être quelque part soumis ou créer eux-mêmes toute une série de contraintes, travailler ensemble sur différents projets, on dira, ou bapiens, et présenter le week-end le résultat de leurs travaux à un public qui peut alors accéder au bâtiment et découvrir ce qui a été fait, et surtout découvrir aussi toute une série de rencontres, de causeries, de projections, d'expositions qui ont été montées dans cet endroit. Donc 3e édition qui était vraiment très très intéressante, comme on peut s'en douter. Houbert était donc invité en tant qu'auteur, et je pense que tu peux nous donner un peu ton sentiment de, en tant qu'auteur invité, de participer avec autant d'autres auteurs venus d'un peu partout, oui, sur ce projet.
Mais oui. Mais c'est une expérience vraiment enrichissante et très surprenante parce que être invité à une résidence qui est basée sur quand même un travail autour de la contrainte, avec des auteurs qu'on ne connaît pas spécialement, et sur 5 jours enfermés dans un endroit qui est assez exceptionnel quand même. On est au milieu de la nature, on ne voit personne pendant 5 jours, et on peut se demander un peu comment ça se passe. Et assez vite, il y a une espèce d'énergie, de travail qui passe par les exercices, qui passe par des travaux collaboratifs. Et d'autant plus que c'est des exercices sous contrainte, mais il n'y a pas un résultat final. On ne demande pas de produire un chef-d'œuvre, d'avoir 10 planches au final ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il n'y a pas d'ego qui se confronte, et les gens sont un peu à l'écoute de chacun. Et donc on arrive à des résultats assez surprenants, quoi.
Alors, réalisation concrète dont toi tu es là pour nous parler, c'est ce bouquin autour des 12 travaux d'Hercule. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, eh bien, mais depuis, je crois que c'est depuis la 2e édition, ils invitent, pour le PFC2, c'était Blex Bolex qui supervisait un journal. Cette année, ils ont invité Isinori, qui est une structure éditoriale qui font des livres expérimentaux, qui vient de Strasbourg. Et ils ont donc supervisé un projet collectif qui rassemble un peu les différents auteurs présents. Là, le thème, c'était les 12 travaux d'Hercule. Donc, il s'agit de produire 12 images qui seront rassemblées dans un bouquin sérigraphié. Et donc, on pouvait travailler en solo ou travailler en duo autour de ces travaux-là. Et la chose s'est passée un peu de façon assez simple. On avait les 12 travaux d'Hercule affichés, on appliquait nos noms à côté de notre travail correspondait. Donc moi, je me suis affilié à François de Jong. Et puis voilà, les seuls la contrainte qui était quand même pas des moindres, c'était que comme la sérigraphie, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation, vu qu'ici, il y a trois passages couleurs. Un premier passage qui était jaune, ensuite un rouge, et puis un bleu en dernier. Il devait un peu organiser la chose pour que le livre soit visible au moment où la résidence est ouverte au public donc, durant le week-end. Donc c'était assez... quelque part, il y a quelque chose d'assez arbitraire parce que les 12 travaux étaient alignés sur une feuille, sur un mur. On appliquait nos noms au fur et à mesure et ensuite, chacun voyait un peu comment il allait travailler avec son comparse ou alors il travaillait seul. Donc là, c'est un peu différent. Dans mon cas, comme il y a différents exercices qui sont lancés en même temps, François était occupé sur un exercice, donc il m'a dit fais le découpage. Donc j'ai fait le découpage. Ensuite, on a discuté à deux du découpage et comment on allait se répartir le travail. Ça aurait pu être lui fait un crayonné, moi j'encre, ou à l'inverse. Bon, là, on a vraiment décidé de mélanger les choses. Quoi. Donc, de temps en temps, je prends le personnage. Enfin, j'ai choisi le. J'ai oublié le nom maintenant, le sanglier dérimante. Voilà. Donc c'était d'abord François qui a appliqué son nom, puis moi je me suis joint à lui. Et donc de temps en temps je dessine Héraclès, de temps en temps le sanglier et vice versa. Quoi. Et ce que je trouvais intéressant avec François, c'est qu'il utilise aussi le rotring comme moi, et donc, mais d'une manière assez différente. Et en fait, finalement, les deux styles se sont bien mélangés.
Miraculeusement,
et même le bouquin, et en fait c'est assez à l'image de PFC, c'est que le bouquin, c'est que les travaux étaient déjà prédéterminés à l'avance, quoi, le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, et c'est finalement... quand tout le monde a donné ses images, et quand tous les passages ont été imprimés, qu'on se rend compte que, enfin voilà, quoi, ça fonctionne. Quoi, c'est
assez, parce que les styles sont forcément très différents entre Mazen Kerbadj d'un côté, et puis il y a un binôme, c'est Anders Nielsen avec Joe Dogg qui ont fait un binôme aussi. Donc on a vraiment des styles très variés. Et effectivement, la thématique des travaux, mais adjointe avec la technique de la sérigraphie et les passages couleurs, les mêmes couleurs, unifie le tout et ça donne vraiment un objet qui... finalement aussi quelque part une bande dessinée, puisqu'on on a une série de séquences qui se suivent et qui sont là. Et donc c'est vrai que le résultat était assez intéressant.
Et alors, où est-ce que ce bouquin, on peut le voir? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir?
Mais en fait, voilà, il y a 60 exemplaires qui ont été imprimés pour pierre, feuille, ciseaux. Donc les exemplaires ont été donnés aux auteurs et puis... aux différents intervenants de Pierre Feuille Ciseaux, et on a certains qui ont été mis en vente le week-end.
D'accord.
Donc quand les expositions étaient...
Mais il n'est pas trouvable.
Et donc il n'est pas trouvable, non. Je pense qu'on
l'affichera sur, ouais. sur le site internet.
D'accord.
J'imagine, oui. En tout cas, il y a déjà des photos sur le site de Pierre Feuille Ciseaux qui sont visibles, enfin sur la fabrication et ainsi de suite. Quoi. Donc,
Ok. Et alors, toi, Nicolas, tu voulais, toi, tu es là depuis 3 ans. Tu t'occupes un peu plus de la partie débat qui a lieu plus le week-end, une fois que les artistes ont travaillé, les auteurs pendant une semaine. Et donc, tu voulais nous parler d'un aspect assez intéressant, je crois, par rapport à la bande dessinée politique et tout ça. Enfin voilà, je te laisse la parole.
Oui, donc je co-anime les débats, mais avec Fabien Texier qui participe au Festival Central Vapeur, dont on reparlera, je pense, dans l'agenda, et Xavier Gilbert qui travaille sur le site du Neuf. Donc, on choisit effectivement, en fonction des invités, un certain nombre de sujets pour faire des causeries avec ces auteurs. Il y avait 3 causeries cette année, les états du dessin plus sur l'aspect graphique, la BD américaine Réinvention perpétuelle avec 3 invités qui étaient Sarah Glidden, Anders Nielsen et Zach Sally, et une 3e causerie qui était la bande dessinée à 6e continent et qui avait pour objectif de discuter avec des auteurs venus des 4 coins du monde pour nous parler tout d'abord de la situation de la bande dessinée dans leur pays, quel est l'état de la bande dessinée au Liban, en Afrique du Sud ou ailleurs, dans des pays dont on connaît assez peu la production finalement, et de voir leurs influences, l'évolution de l'histoire de la bande dessinée chez eux. et dans un deuxième temps, puisque ce sont des auteurs dont les ouvrages sont généralement liés à la politique, de discuter de la façon dont ils vont utiliser la bande dessinée pour parler de problèmes sociaux, politiques dans leur pays. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce débat, c'est finalement une sorte de révolte des auteurs présents, puisqu'effectivement, à un moment, c'est poser la question de est-ce que il fallait est-ce que ce plateau était vraiment quelque chose de vraiment justifié ou de vraiment pertinent, parce que pour ces auteurs, donc il y avait pour ce débat Mazen Kerbach, donc qui est auteur libanais, qui avait fait Beyrouth juillet août 2006 à l'association, qui avait travaillé dans le monde diplomatique, qui avait travaillé dans le monde diplomatique en bande dessinée aussi, Joe Dogg d'Afrique du Sud, qui est le cofondateur de l'incroyable revue Bitter Comics, Polina Pretutina, dans une franco-russe qui co-organise le Boomfest de Saint-Pétersbourg, auteur de Le Grand Amour, et deux auteurs argentins, Diego Agrimbo, auteur de La Bulle de Berthold, et Lucas Varela, argentin aussi, donc auteur de L'Héritage du Colonel. Et finalement, pour ces auteurs, il y avait malgré tout une forme de frustration, parce que on les invitait forcément pour parler de politique, alors qu'ils sont dans une situation où ils font plein d'autres bandes dessinées qui ne traitent pas de politique et dont ils voudraient pouvoir effectivement parler. Et ce qui était intéressant, c'était de voir pour nous, en tout cas, quand on est animateur des débats, quand on choisit les auteurs et le sujet, on peut se baser que sur un corpus existant et de se rendre compte que ces auteurs ne sont traduits en français que dans le cadre d'ouvrages liés à la politique, pour Diego Agrimbo et Lucas Varela, d'ouvrages qui traitent de la torture ou de la dictature liée quelque part à l'Argentine, pour Joe Dock forcément dans son travail lié à l'apartheid, et Mazen Kerbach pour son travail lié au bombardement de Beyrouth par l'aviation israélienne. Et effectivement, on n'a que ces œuvres-là en français, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces auteurs sont quelque part frustrés qu'ils n'intéressent les éditeurs français que dans le cadre de ces ouvrages-là, que si c'est des ouvrages qui traiteraient, comme disait Mazen, du printemps ou de n'importe quel autre sujet, ils auront beaucoup plus de mal à être traduits, parce que quand il a publié sur son blog les premiers dessins de Beyrouth, l'association a tout de suite dit banco, on le fait, parce qu'il y avait ce côté politique qui était là. Et c'était vraiment intéressant de découvrir ça. Effectivement, moi, quand je parle quand je décide en concertation avec les autres de faire un sujet sur la politique, de découvrir qu'il y a une autre réalité. Et c'est ce qui était vraiment intéressant dans ce débat, ce qu'avait souligné Ibn al-Arabin d'ailleurs en intervenant en fin de débat, en disant mais est-ce que tous ces auteurs, ils en ont pas marre qu'on leur parle de politique? Et effectivement, c'était une réalité, et je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'il y a effectivement ce problème au niveau de l'édition francophone, de dire on va parler, on va vous publier si vous parlez de politique, si votre sujet n'est pas lié à la politique, ça nous intéresse d'un coup nettement moins. Et Diego Agrimbo, Lucas Varela m'a d'ailleurs fait part de finalement leur amertume de n'exister qu'au travers d'albums traitant, même de façon assez éloignée, de la dictature en Argentine, alors qu'ils étaient enfants quand il y a eu la dictature, que c'est loin d'être le sujet central de leurs albums et de leur œuvre, de leur corpus, mais qu'il n'y a que ça qui est traduit. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de voir cet aspect-là qui est né lors d'un des débats de Pierre Feuille-Ciseaux.
Que j'avais rencontré par ailleurs moi aussi en allant au Liban et en faisant un tour de table autour de la bande dessinée, la jeune bande dessinée. Mazen avait fait part de cette même frustration. Donc c'est quelque chose qui poursuit. Par ailleurs, on peut retrouver cette frustration chez des personnes qui, par exemple, font de la bande dessinée, une bande dessinée depuis un point de vue d'homosexuel, par exemple, ou d'anciens toxicaux, ou d'enfants brutalisés, et qui après se voient comme des acteurs qu'on a vus dans un beau rôle et à qui on refile toujours le même vieux bon rôle en se retrouve bloqué. Donc c'est parfois des choix de carrière qu'il est impossible à faire par avance et qui vous poursuivent comme des boulets. Herbert Léonard, qui a fait par ailleurs d'excellentes chansons politiques, ne s'est jamais vu. je connais ton amour pour Herbert Léonard, ton écharpe Herbert Léonard que tu as ce soir autour du cou.
Ce double album sur la commune de Paris, l'a catalogué comme chanteur politique.
Oui.
Et après, son amour des femmes a été très difficile à exprimer dans la suite de sa carrière. Quoi.
Ouais. Oui.
Bah, heureusement, comme il est bourré de talent, il y a réussi, ce qui n'est pas toujours le cas de malheureusement tout le monde. Voilà, merci. On salue June et toute l'équipe.
Shifumi.
Shifumi, oui. Qui est passé par Bruxelles il n'y a pas longtemps. Et donc, on va passer à la suite. Où Vincent qui est arrivé parmi nous, va intégrer le studio parce qu'il va nous donner ses commentaires éclairés sur les deux bouquins dont Nicolas va introduire en tout cas. Et il s'agit ici d'un versus, c'est comme une sorte de battle sur un ring. Habibi de Craig Thompson, qui vient de sortir en librairie en français, mais qu'on a lu en anglais pour être dans l'actualité complètement. Versus Holy Terror de Frank Miller. Attention, il y a des coups qui vont se perdre, mais je ne dirai pas pour qui.
Oui, alors j'aurais voulu m'adresser donc directement à Frank Miller.
Il est là.
Il est là.
Ah non, c'est Vincent Miller.
Francky, si tu nous écoutes.
Et de me demander pourquoi, Franck, as-tu dérapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu craqué? Je ne comprends pas. J'ai découvert, je crois, ton premier album quand j'avais 17 ans en lisant ton Dark Knight Returns un soir de babysitting.
Toi, tu le tutoies. Toi, tu le tutoies, Frank Miller.
Ouais, ah oui, toujours. En anglais, quand on traduit, il n'y a pas vraiment, il y a le you et...
Très bien.
Enfin, soit. Et donc, j'ai tout de suite été sous le charme du Dark Knight Returns et puis de découvrir que ce soit le Daredevil, toute cette incroyable saga dans les années 80, que ce soit Les Sin City et ton travail du noir et blanc. Et puis là, j'ai le sentiment que c'était une sorte de longue descente aux enfers, déjà en 2008, quand tu adaptes ton Spirit au cinéma et que ça devient l'un des plus grands fiascos de ces studios. Tu as dû te sentir amer et là, je crois que tu as passé un nouveau cap parce qu'avec Holy Terror, on tombe dans une bande dessinée dont je voulais absolument parler parce que j'ai rarement lu un album avec une idéologie aussi nauséabonde qui est finalement une sorte de grand cri de haine à l'égard de, peut-être pas de l'islam en général, mais en tout cas, finalement, quand on le lit, on a véritablement ce sentiment-là. Au départ, Leader Terror devait être un récit qui devait, je pense, intituler Batman versus Al-Qaïda, qui devait mettre en scène le personnage de Batman. En cours de route, ça a été totalement changé. Le costume a été légèrement modifié pour que le personnage devienne le fixeur et qu'il affronte Al-Qaïda après d'horribles attaques terroristes sur le sol américain et où finalement on va avoir une succession de clichés tout droit sortis d'une sorte d'extrémisme, mais plutôt néoconservateur américain avec cette utilisation de la violence, le droit de faire subir ce qu'on veut à ces prisonniers, les torturer, une scène atroce où ils s'amusent à casser la colonne vertébrale d'un prisonnier pour essayer de le faire parler et avouer où se trouvent les autres. Je ne remets absolument pas en cause l'horreur que peut être le terrorisme, mais il y a là une façon ultra réductrice de présenter l'islam, de présenter, qui est vraiment présenté dans tous ces clichés, où la première phrase qui est écrite dans ce livre, c'est « Quand tu rencontres l'infidèle, tue l'infidèle », signé Mohamed. Et je crois que tout le ton est donné pour cet album qui...
Mohamed, comme ça, c'est bien généralisé.
C'est bien généralisé, tout à fait, et où il n'y a aucun recul. Alors, il il dit, Frank Miller, au départ, qu'il sait qu'il fait un bouquin qui va offenser tout le monde et que... Mais lui, sa conviction profonde, c'est que pour sauver les États-Unis, il faut faire revenir en avant une sorte d'élan patriotique, mais qui est un patriotisme ici totalement nauséabond, où on joue sur les victimes des attentats, sur leurs images, où ils sont représentés disparaissant progressivement dans des séquences vraiment totalement abominables. Où il fait une surenchère de pathos sans poser aucune réflexion sur ce qui peut bien pousser des gens. Je reprendrai toujours mon album favori pour Vendetta pour dire qu'on peut parler du terrorisme sans tomber dans ce manichéisme absolument honteux qui n'est là que pour générer la peur, la haine et rien d'autre. Je veux dire, il n'y a aucune...
Et justifier la fin de l'état de droit, quoi. Oui, c'est assez étonnant de voir que le livre fait une espèce d'entourloupe via une espèce de réconciliation nationale, puisque la première scène de ce livre est une bataille entre un héros féminin qui doit être...
Qui est Catwoman.
Contre ce personnage du fixeur et d'un seul coup arrive cet événement extérieur, des clous leur tombent sur la tronche et c'est l'annonce de l'attaque extérieure qui va réconcilier ce personnage le mal traditionnel qui est le méchant qui en fait est aspiré dans cette vendetta du bien et de l'intérieur des États-Unis vers cet extérieur qui est le mal absolu. Et donc on a une espèce de provocation d'un seul coup l'amour se trouve là entre les deux personnages, Catwoman et cette espèce de fixeur, s'échangent à mi-mot qu'en fait ils s'aiment, et justement parce que l'autre, avec sa mitraillette, des gommes des Al-Qaïda à la pelle, et donc du coup, cette Catwoman va l'aimer pour ça. Et donc, on a une ambiance assez étrange comme ça de réconciliation nationale dans le meurtre qui est tout à fait symptomatique.
Pas un résumé de l'histoire américaine, mais qui malgré tout se base sur une certaine idée de l'histoire américaine qui se construit dans les conflits et surtout avec l'idée d'avoir besoin systématiquement d'un ennemi, qu'on le créera de gré ou de force, parce qu'il en faut toujours un, parce que cette vision que les États-Unis ne peuvent exister que face à une menace extérieure, qu'elle soit russe, qu'elle soit maintenant musulmane. Et c'est,
Mais cette rille politique-là n'est absolument pas présente dans le bouquin. On a juste une agression et donc, à fleur de peau, une réaction.
Oui.
Avec ce que moi, je trouvais d'assez vicieux, c'est qu'il invente une sorte de mythologie. Donc, il parle clairement du 11 septembre. Il invente une mythologie terroriste en imaginant, en fait, une ville souterraine qui est infestée de terroristes. Et donc, en fait, le danger est là. Il y a cette explosion, mais le danger, en fait, il est souterrain. Les terroristes musulmans surgissent, en fait, du sol, d'une sorte de ville souterraine qui existe là depuis on ne sait pas combien d'années. Et donc, c'est ça que moi, je trouvais... je dis, waouh, il s'est donné la peine pour être vraiment... Pour encore faire peur quasiment maintenant aux gens, parce que il imagine que des terroristes sortent quasiment des égouts et du sol pour continuer comme ça à instiller une peur.
Il faut se méfier de tout, de tout le monde, parce qu'ils sont là parmi nous, on ne le sait pas, ces gens sont là, il faut craindre pour sa vie.
Il faut tout le temps se méfier, parce qu'ils peuvent à tout moment sortir des égouts ou quoi que ce soit, donc c'est...
Je pense pas, je veux dire, il commence dans les années 80, il est assez jeune, donc on peut pas dire non plus que ce soit un auteur qui aujourd'hui soit...
Un vieux paye, quoi.
Un vieux paye.
Non, mais je me suis demandé, j'ai l'impression que ce bouquin, il était fait en autarcie, quoi. J'ai l'impression qu'il est tout seul dans son délire.
Bah, il est en tout cas auto...
Sans parler du fond.
Il est en tout cas auto-publié, donc je
crois qu'il a eu du mal à trouver... Le livre, il est quand même assez dégueulasse, quoi. Les pages sont ultra fun, ultra... qu'est-ce que je voulais dire comme mot ? Fines. C'est mou, c'est en paysage, c'est super désagréable. Alors, t'as un espèce d'effet Ralph Steadman dépassé. Enfin, sans parler, même quand bien même tu m'aurais pas dit que c'était nauséabond au niveau du fond, j'aurais pas eu envie de lire ce livre, quoi. Repoussant, c'est carrément repoussant
parce que là, on est dans. Parce qu'il après, c'est Sin City, donc à la fin, au septième volume de Sin City, qui est. J'ai oublié le titre maintenant, mais qui est absolument lamentable parce que graphiquement, il y a déjà une vraie perte graphique. Il fait son Dark Knight 2 il y a quelques années, où il espère pouvoir encore innover où finalement, quand on regarde, c'est une utilisation abusive de couleurs flash et fluo qui ont absolument rien d'innovant et où on sent véritablement une sorte de déclin au bout de quelques années. Non. Vais-je colporter des rumeurs entendues
non.
à PFC ?
Non.
Je ne parlerai donc pas de ces problèmes d'alcool à l'antenne. Et sinon...
Non, mais je me demande si ce n'est pas un mec qui est en train de délirer tout seul, qui continue à faire ses BD tout seul.
Et c'est d'autant plus regrettable qu'on est face à un des... Sans doute, enfin, en tout cas, l'un des auteurs les plus importants de l'histoire de la bande dessinée américaine, parce que quand il fait son Dark Knight Returns dans les années 80, la même année que Alan Moore fait son Watchmen, il redéfinit entièrement le paysage de la bande dessinée américaine avec ses Daredevil, avec son Dark Knight, son Batman Year One. Il va lancer, donc ça fait plus de 20 ans que quasi toute l'industrie américaine tourne autour de cette revisitation du Dark Knight et que tout le monde s'est dit « Ah, on peut faire des trucs super noirs, violents, politiques, en bande dessinée avec des super-héros. » Il va amener ça et ce gars qui, dès le départ et dès ses premiers albums, quand on les relit a posteriori, on se rend compte qu'il est fasciné par le fascisme, mais quelque part, au départ, il les exploite du bon côté et c'est toujours Batman ou Daredevil qui vont aller jeter des gros molosses avec des croix gammées tatouées sur le corps, mais où on se rend compte que cette fascination, elle était peut-être quand même... Il a besoin de cette image de la croix gammée, du fasciste, au départ qui est combattu, et là on a l'impression qu'il y a une sorte de dérapage où on se rend compte que sa fascination, elle était quand même beaucoup plus malsaine ou trouble que ça. Donc c'est... Voilà.
Bon, ces cris de colère. Sommes-nous en train d'assister en effet au déclin Il y avait déjà des prémices, la confirmation de prémices dans d'autres œuvres.
En tout cas, voilà. Franck moi, Miller. J'ai voulu parler de ce bouquin parce que j'étais particulièrement frustré ou énervé de découvrir un tel tissu.
C'est pas dans nos habitudes de parler de livres qu'on n'aime pas, mais ici.
Mais voilà, parce que.
Et le replacer aussi dans le. Voilà, un petit versus par rapport à Habibi.
À Habibi, donc, de...
Qui est un ouvrage de tolérance.
Qui est un ouvrage de tolérance, mais qui, malgré
tout...
On va
parler un peu d'Habibi, mais qui, en effet, véhicule sans doute d'autres valeurs ou d'autres...
Oui, tout à fait. Nouvel album de Greg Thompson, qui est devenu une star internationale de la bande dessinée grâce à son album Blankets, qui a fait... gros roman graphique, autobiographique qui s'est vendu je pense un peu partout dans le monde avec un accueil critique énorme, album assez intéressant pour certains aspects mais sans être non plus un ouvrage révolutionnaire en autobiographie ou même
qui a dû être champion du monde du plus grand nombre de pages à l'époque pendant...
Oui, puisqu'il ne se cachait pas que son objectif était de dépasser le Lapino de Lewis, et les carottes de Patagonie de Lewis Trondheim. C'était un de ses objectifs un peu vain mais qui était bien présent.
Bien dessiné, ça se retrouve dans Habibi.
Oui, tout à fait, parce que c'est un jeune auteur talentueux. Habibi qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre mais qui est vraiment aussi un beau bouquin avec beaucoup de choses très intéressantes et qui, lui, auteur américain, comme Frank Miller, va prendre un autre parti qui est celui, finalement, d'exploiter ou en tout cas de présenter le monde arabe dans ce qu'il a de sans doute de plus beau, que ce soit la calligraphie, le rapport au Coran, des histoires extraites du Coran qui sont absolument magnifiques, et une façon de présenter le monde arabe, non pas sous l'angle de la peur, mais sous l'angle de la richesse culturelle, où il va faire vivre deux personnages, deux anciens esclaves qui vont fuir, vivre ensemble quelques années, essayer donc une jeune fille qui va s'occuper d'un jeune garçon beaucoup plus jeune qu'elle, la relation qui va s'établir entre eux, leur séparation un peu plus tard et comment ces deux personnages vont vivre pendant de nombreuses années séparées, chacun essayant de s'accomplir ou en tout cas de survivre dans ce monde particulièrement dur qu'est celui du harem principalement et vont se retrouver après qui est un album assez intéressant, assez beau, comme on en avait parlé lors de la réunion. Oui. Emprunt d'un certain maniérisme graphique, mais qui malgré tout est une œuvre ambitieuse, très intéressante et est tout à fait recommandable pour les amateurs. Voilà, c'était un peu le versus de présenter deux auteurs américains travaillant en noir et blanc, mais ayant décidément une vision de l'islam très très différentes l'un de l'autre.
Tout à fait. Blanquette nous parlait de l'autobiographie, c'était une autobiographie qui racontait un peu comment Craig Thompson s'échappe d'un catholicisme, très très carré, très empreint de culpabilité, de haine de soi, etc., pour arriver à quelque chose ou une réconciliation avec soi-même, pour aller vers une forme de catholicisme aux limites de la mièvrerie, on le sait bien, mais dans lequel l'envers, donc la beauté, l'accomplissement de soi, se fait à travers un rapport à Dieu. Et ici, on est dans quelque chose qui est quelque part une continuité, il y a une forme de réconciliation entre religions, une façon de d'essayer de ponter ce qu'il y a de beau à travers les religions.
Il y a le Coran et il y a la Torah, puisqu'il reprend, il fait un parallèle entre les deux religions à de nombreux moments.
Plus sa manière d'aborder la chose, qui est très portée sur l'amour, enfin, on a quelque chose qui est très, donc du coup, dégoulinant, c'est très beau, on a un graphisme, les filles sont belles, etc. On parlait pendant la réunion aussi d'un certain rapport au fluide, qui est nettement plus souterrain et intéressant chez lui, dans le fond, c'est la matière la plus intéressante, un rapport au rapport sexuel assez trouble. Enfin, toi, tu relevais que Blanquette parlait à plusieurs reprises d'un trauma d'enfance lié à l'abus sexuel. Et ici, on ressent de proche en proche dans ce livre qui n'en parle pas du tout, qui est une fiction recomposée. On sent très fort un rapport, ça commence par des gouttes de sang qui coulent, qui font une trace. Cette trace, c'est à la fois celle de la perte de la virginité et celle du début de l'écriture. Donc il y a toute une façon de traiter le fluide comme source, comme trace, comme toute une série de choses comme ça. Et un rapport étrange à la sexualité que tu pourrais peut-être... tu étais brillant à ce propos, parle-nous-en.
Merci, écoute, que d'éloge, mais où effectivement il y a un rapport à la sexualité, mais où il y a toujours elle est présentée, l'acte sexuel est présenté comme un acte de violence, parce que l'héroïne subit un certain nombre de viols, doit à un moment se prostituer pour survivre. Il y a toujours un rapport qui est très noir avec la prostitution, et où finalement on se retrouve comme chez Dave Cooper, qui, victime lui aussi d'un abus sexuel étant enfant. Dans toutes ses œuvres, on va retrouver présence de viols, d'agressions, jusqu'à faire une œuvre qui va lui permettre, dans le cas c'est Dan and Larry, In Don't Do That, qui est l'ouvrage où Dave Cooper parle plus clairement de cette agression sexuelle. Greg Thompson va en parler dans Blanquette, mais où on va retrouver toujours ce même rapport de violence, de viol lié à cet abus, et où ici, effectivement, il y a un rapport où l'accomplissement, le véritable accomplissement sexuel, ou en tout cas, oui, sexuel, se fait, mais sans pénétration. Il y a tout un rapport sur les personnages de nuque dans les harems, qui est vraiment très très intéressant, et où on trouve, où on peut analyser ça de façon assez, assez profonde, ou en tout cas, je trouve qu'il y a toujours cette angoisse toujours présente et qui est peut-être même finalement le centre de, au-delà du côté l'amour qui dégouline, il y a effectivement toujours ce rapport-là qui est beaucoup plus, comme tu disais, souterrain, mais omniprésent. Il y a, je ne sais pas le nombre de séquences où on pourrait analyser ce rapport au fluide, à la pénétration, à la violence, qui sont toujours là. Mais il y a vraiment, je ne sais plus, le mois passé, Vincent, tu avais utilisé une graphothérapie.
La pathographie,
pathographie, comme tu l'avais utilisé le mois passé, mais où l'œuvre de Greg Thompson semble en tout cas tourner autour de ça, et ça la rend très intéressante, parce que effectivement, de voir comment il essaye d'exprimer ce mal-être, ce trauma au travers de ses récits et de son dessin aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui tient de l'obsession.
Parce qu'au-delà de la sexualité, qui est en effet perçue d'une manière assez négative, c'est, je dirais même, l'ensemble de l'humanité qui est perçue, je dirais, de manière assez négative. Après, on n'en dira pas plus, mais on parle d'un monde plutôt ancien, mais il y a bifurcation à un certain moment vers un monde beaucoup plus contemporain. Et finalement, qu'est-ce qui peut sauver l'homme dans tout ça? Ça reste l'amour, en effet. Donc, avec une vision sans doute très idéalisée, voire peut-être naïve ou mièvre. Mais on dirait que c'est tout ce qui reste finalement à l'homme qui veut tout le temps exploiter l'homme ou la femme encore plus. Et donc ça reste... Ça reste malgré tout assez noir pendant une bonne partie du récit. On se demande vraiment comment ils vont s'en sortir finalement. Après, on en lit un peu plus,
Une chose que j'ai trouvé très très beau dans le récit, qui est pour moi une belle réussite de l'ouvrage, c'est la façon dont il utilise les histoires. Donc en fait, le personnage féminin va raconter à ce très jeune garçon toute une série de contes coraniques, ou en tout cas de contes tirés de la Torah, toute une série d'histoires mettant en scène Salomon et autres personnages, et qui sont à chaque fois des histoires symboliques qui sont là pour faire grandir ce garçon, où il va expliquer à chaque fois, à chaque âge, elle lui raconte des histoires qui sont plus appropriées pour qu'il découvre tel ou tel pan de la vie. Et c'est vraiment très intéressant et je trouve très beau dans le bouquin, c'est la façon dont l'histoire, dont il présente l'histoire, ou ce genre d'histoire courte, de conte, pour être vraiment formateur auprès d'un enfant, pour lui apprendre un certain nombre de valeurs. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que toutes les histoires courtes sont vraiment très, très belles et très riches de sens, de symboles. Et ça, c'est vraiment une partie que je trouve très forte dans le récit. C'est finalement l'histoire dans l'histoire qui est assez belle.
Finalement, on a de deux côtés quelque chose comme des récits initiatiques, puisque Habibi veut essayer de nous faire grandir à travers des récits. Et là, Miller essaye de nous donner un coup de pied au cul pour qu'on aille botter tous ces Arabes hors d'Amérique. Et de côté, on a en symétrie un rapport à la haine de l'autre et l'autre à l'amour de l'autre, et avec une forme de l'amour comme point central, puisque Frank Miller parle d'amour constamment entre les deux personnages qui naît, mais qui est tout aussi prude que ceux qu'on peut trouver dans la version sublimée d'Abibi. Donc en fait, il y a pas mal de symétrie dans ces bouquins qui décidément doivent être lus côte à côte.
Ça n'engage que toi, Stéphane.
Ça me faisait un peu l'impression, effectivement, magie blanche, magie noire, c'est-à-dire Miller côté magie noire. C'est pour ça que moi, je trouve que le Miller est très réussi. Je suis peut-être le seul à le trouver, mais moi, d'abord, j'ai ri énormément pendant la lecture. Je ne pouvais pas croire une seconde qu'il... En fait, je croyais à la fois qu'il était très premier degré, et je pouvais en même temps, moi, en tant que lecteur, ne pas... Je ne pouvais pas le lire au premier degré, parce qu'effectivement, c'est trop ras du front, c'est trop simpliste. Mais du coup, c'est tellement épuré aussi. Le discours est totalement presque apolitique, tellement il a évacué toute argumentation. Et du coup, on a un côté un peu Habibi, bande dessinée de gauche intellectuelle, très recherchée, très littéraire, avec la calligraphie, le Coran, les mille et une nuits, quelque chose d'à la fois très cliché aussi dans la composition du livre. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va avoir avant de l'ouvrir avec la couverture et en sachant que c'est Craig Thompson. Et Miller est très jusqu'au boutiste dans son côté droitiste, presque extrême droite. Il le dit lui-même, j'ai pas fait dans la finesse, c'est un outil de propagande. Et moi, j'ai l'impression qu'il a lui-même épuré son discours jusqu'à arriver à un dessin qui est parfois totalement abstrait, une espèce de caricature de Miller et une caricature de discours d'extrême droite.
A-t-on devant nous la séparation politique des États-Unis entre, voilà, vaste question à 1000 points. Je vois qu'on me demande de me calmer dans le studio alors que j'allais lancer truc dithyrambique sur les États-Unis.
C'est là que je trouve que Miller a réussi son coup, c'est que tout le monde ici dans le studio est offensé.
Oui, tout le monde est offensé, mais je suis entièrement d'accord. Je trouve que voilà, Le Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl est un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est un film de propagande nazie. Effectivement, je suis offensé quand je vois. Je trouve que Le Triomphe de la Volonté est un film absolument incroyable. Esthétiquement, c'est incroyable. Maintenant, je ne peux pas tolérer le contenu.
Je
suis d'accord, c'est effectivement un bouquin de propagande réussi. Il utilise toutes les ficelles, tout ce qu'il faut. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais malgré tout, je me devais de dire que pour moi, il y a vraiment un dérapage idéologique. Mais bon, ça sans doute tient qu'à moi, effectivement.
Je ne suis pas offensée, je ne me suis pas infligée cette bande dessinée. J'avais l'impression que j'allais passer une heure avec un vieux con qui allait me dire un truc que je n'avais pas envie d'entendre. Donc c'était vraiment
C'est intéressant aussi, parce que...
Je ne m'inflige pas cette bande dessinée.
Tu ne veux pas l'entendre, tu ne le lis pas. Miller interroge beaucoup de choses, je trouve, là-dessus, avec une bande dessinée aussi dégueulasse. C'est Est-ce que c'est bien pensant de dire séparons l'islam d'Al-Qaïda? Enfin, lui, il n'offense pas l'islam exactement. Forcément, il cite beaucoup Al-Qaïda. Les terroristes, il a un point de vue ultra-américain sur... j'ai ressenti dans ma chair la menace existentielle que mes parents avaient peut-être connue pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, etc., donc que lui n'a pas connue. Et c'est une expression de ça, c'est-à-dire... Moi, je me suis vraiment interrogé sur est-ce que je suis bien pensant en me disant séparons tout, les musulmans ne sont pas forcément, etc. Je trouve que ça interroge beaucoup de choses, ça percute beaucoup de choses, en fait, dans un lecteur de gauche, parce que je me considère de gauche aussi. Mais est-ce que je ne suis pas moi-même très bien pensant et Frank Miller, avec ce Holy Terror, que je ne considère pas comme une bande dessinée achevée ni réussie, d'un point de vue purement bande dessinée, on va dire. Mais je trouve que l'acte lui-même est intéressant et m'a personnellement beaucoup troublé, notamment sur moi-même.
Après, c'est sans doute éminemment personnel, parce que moi, je l'ai lu et ça m'a vraiment pas percuté. J'ai essayé de le lire jusqu'au bout, mais dès le début, ça m'a assez fort révulsé. Et alors, contrairement à Reni Riefenstahl, dont on parlait du film, je trouve Holy Terror est vraiment laid, quoi. C'est pas un beau bouquin. Il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que c'est bâclé, cochonné. Alors, est-ce que c'est pour en rajouter par rapport à ça, par rapport au bouquin? Je sais pas. J'ai plus l'impression que là aussi, même au niveau du fond. De la forme, même si je connais beaucoup moins le boulot de Frank Miller que Nicolas, mais là aussi j'ai l'impression d'être face à un truc de fin de carrière, un truc qu'il aurait peut-être jamais dû faire. Et bon, voilà, je trouve ça.
C'est vrai que le dessin est dégueulasse, comme le message, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de très réussi dans cet objet. Au début, je me disais, mais c'est super mal dessiné, qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a torché ça en étant.
Oui, la fond rejoint le forme, les deux sont
après,
dégueulasses.
Je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Esthétiquement,
ça fonctionne.
Comme ça. Cohérence.
L'esthétique fait fonctionner un discours comme celui-là.
Moi, j'ai une réflexion pas comme la tienne, mais après avoir lu ce truc, j'avais lu Pralon la veille et je me suis dit, ok, je trouve que c'est dégueulasse, mais Pralon, je trouve que c'est assez laid aussi d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux sauver Pralon en partie en tant que bon bobo parce que c'est le dessin qui convient aux maisons d'édition qu'on fréquente? Et qu'est-ce qui fait que je trouve à vomir ce dessin dans ce bouquin de Miller? Là, j'étais un peu questionné. Je me disais peut-être qu'il y a mon côté bien pensant qui est en train d'agir et qui est en train de voir dans cette esthétique quelque chose de nauséeux, là où en fait, on peut enfoncer la tête dans le purin de pas mal de dessinateurs de la nouvelle vague française, belge.
Et là, dans Holy Terror, il y a un truc super agressif.
Donc,
sans même commencer à lire les bulles, tu t'en prends plein la gueule. On parle de fluide. Moi, j'ai l'impression qu'il pisse sur ses BD, quoi. Ça gicle de partout.
C'est de la tache, c'est de l'empreinte digitale dans l'angle de Chine.
Combien de mines il a pété
en quelque part, c'est le côté hard-boiled de Frank Miller, poussé à l'extrême, quoi. Quand il dit au gars enchaîné, je t'appelle Mohamed parce que t'admettras que les statistiques sont contre toi. Il y a un côté ultra. Ultra hard-boiled, quoi. C'est le seul truc que je peux dire là-dessus. C'est épuré jusqu'à la nausée, quoi.
Mais ça, c'est... Voilà. Après, c'est vraiment sans doute très personnel. Et moi, c'est vrai qu'à un certain moment, ça atteignait une limite et je ne pouvais plus y trouver aucun intérêt. C'était pour moi, c'était vraiment de la merde. Mais voilà. Mais bon, après, chacun a ses limites et je ne le dirai plus. Hein, que c'est de la merde. Enfin, oui, peut-être.
Tu le dis bien.
Voilà. On va s'écouter un peu de musique, si...
Super.
Voilà. Ibn al-Rabbin. Rabin. Alors, un subtil jeu de mots, rabbin, bon voilà, c'est super, c'est parfait. Super bon choix, Bertrand, par rapport au premier choix de morceau de musique. Un morceau de musique s'appelle Au bal. Voilà, c'est-il pas bien ça?
Accrochez-vous fort à vos partenaires, messieurs, accrochez-vous fort car j'ai du savoir-faire. J'ai le rythme et la technique pour toutes les danses. J'ai le rythme et la technique et de l'endurance. On m'appelle l'ouragan, on m'appelle l'avalanche.
déclenche, on m'appelle l'ouragan. Et quand je me déclenche, quand je déferle sur la piste, même mes amis, quand je déferle sur la piste, ils font de l'anémie. Je descends de la montagne pour aller danser. Je descends de la montagne plutôt motivé. Je m'en viens de ma campagne pour aller au bal. Je m'en viens de ma campagne et ça va faire mal. Et je fais tourner les filles comme des assiettes. Et je fais tourner les filles, elles me perdent la tête. La plus éléphantesque, même la moins fine. Même la plus éléphantesque se découvre ballerine. Car aussitôt dans les bras, voilà qu'elle décolle. Car aussitôt dans les bras, elle ne touche plus le sol. Et je passe d'une fille à l'autre en tempête ardente. Et je passe d'une fille à l'autre, y a des files d'attente. Je descends de la montagne pour aller danser. Je descends de la montagne, c'est pas pour me faire chier. Je m'en viens de ma campagne pour aller au bal. Je m'en viens de ma campagne en aigle royal.
Voilà, le débat continue à faire rage ici, Oli Terror versus Habibi, mais on parle plus d'Oli Terror en fait finalement que d'Habibi. Donc si jamais à Noël vous vous ennuyez depuis des années, on vous conseille de filer Oli Terror à toute votre famille, Habibi aussi éventuellement, et d'en discuter. Croyez-moi, vous verrez pas arriver à 3h du matin, ce sera... ça ira comme sur des roulettes. Alors on écoutait Ibn al-Rabin et on va écouter un peu plus tard Zach Sali. parce que ces deux auteurs étaient à PFC, on en remet une couche, et c'est l'occasion aussi de se rendre compte qu'ils font de la musique, comme finalement beaucoup d'autres auteurs. On aura l'occasion de reparler musique aussi avec Nilso plus tard. Nilso qui a fait... non, il nous racontera lui-même. Alors, on va parler de deux autres albums. Oui, mais il ne va que pour vous d'Isabelle Pralong. Mais avant ça, Voyage en Satanite, Fabien Velman et Keras Koet. C'est Vincent qui ouvre le bal. C'est un album qui est sorti il y a déjà plusieurs semaines, plutôt en début septembre, je crois. Mais on voulait revenir dessus aussi pour le travail de Fabien Velman et de Keras Koet. On parlera peut-être de Jolies Ténèbres rapidement. Mais voilà, cet album nous a plu, en tout cas, je crois. Enfin, voilà, pour la majorité. Donc, on voulait vous en parler. Sauf à Vincent.
En fait. Ah, pas, moi, c'est pas du tout assez l'extrême droite pour moi, donc je vais en parler très mal. Non, c'est vrai que Velman est un peu le scénariste chouchou de la maison. On en parle beaucoup, on aime beaucoup ce qu'il fait.
Enfin, c'est le cousin de Nicolas.
Qui nous écoute.
Il non, mais je sais, déjà, la dernière fois que j'en parlais, Stéphane m'avait dit dès que tu en parles, tu as ça brille dans tes yeux. Mais oui, c'est comme ça. Soit.
Il se passe déjà quelque chose. Donc, brièvement, l'histoire, une équipe de spéléologues est à la recherche du frère d'une des membres qui a disparu, à la recherche de...
à la suite d'une théorie fumeuse, comme quoi vivraient vers le centre de la Terre des êtres qui ressemblent un peu au diable des mythologies.
L'enfer existe, mais ce sont des êtres humains qui ont évolué différemment. Et donc voilà, une équipe de spéléologues part à leur recherche. On ne va pas non plus trop dévoiler. C'est difficile d'en parler sans forcément dévoiler, même au tout début, les premiers ressorts narratifs.
Ça, c'est le pitch un peu. Elle veut partir au centre de la Terre. Son frère a disparu pour essayer de confirmer une hypothèse comme quoi des êtres évolués à partir de la race humaine y vivraient.
En gros. Voilà.
Alors, sans parler de l'histoire, qu'est-ce qui nous a plu ? Qu'est-ce qui nous a plu dans ce livre ? Sans parler de l'histoire.
C'est difficile de...
Attention.
Il y a quelque chose qui m'a assez moyennement plu, où je me suis dit, il utilise ça, un élément culturel qui est un mythe, mais qui est à la fois très connu. Et j'ai trouvé ça dommage que, même si ce n'est qu'une étape dans le récit et que finalement la chose plus intéressante suit, je me suis dit, dommage, j'aurais préféré qu'il invente quelque chose vraiment du début à la fin plutôt que de reprendre cet élément-là qui est finalement... qu'on a déjà vu dans d'autres bandes dessinées, dans des films, là je tourne autour du pot pour ne pas le dire, mais du coup j'étais un peu déçu, et je trouve que ça démarre surtout à la fin, donc c'est une bande dessinée qui est en deux volumes, premier volume est donc paru, et bon, du coup j'attends énormément le deuxième volume pour voir et de quelle façon le scénariste et le dessinateur justifient le titre Voyage en Satanie, qui est un bon titre, même si on n'invoque pas... gratuitement le nom du Seigneur Satan, je tenais à le préciser à l'antenne, mais donc voilà, je trouve que le récit démarre vraiment à la fin et que tout le début est un petit peu lent,
un peu de thèse, hein.
Alors la partie du milieu que je trouve moins originale et donc moins convaincante, je trouve retarde un petit peu le vrai décollage à la fin de l'histoire qui là en revanche me convainc beaucoup plus.
Je suis assez d'accord, je trouve que dans les personnages il y en a qui sont très bien plantés et d'autres qui sont super fades en fait. Et comme à un moment, c'est essentiellement de la discussion, ils sont entre eux. Mais il y a certains personnages, je trouve, qui font que tu t'ennuies un peu. À certains moments.
Alors, je dirais que c'est un des seuls reproches que je ferais à Maître Velman. C'est...
Assez.
Non, c'est que il y a souvent un problème de démarrage. Je trouvais que c'était, par exemple, le cas dans Les derniers jours d'un immortel, où le démarrage est très poussif. Et puis, on rentre dans le récit et ça devient, je trouve, ultra convaincant comme bouquin. Ici aussi, il y a un démarrage qui est un peu poussif. Et puis, une fois qu'on rentre dans son concept, moi, en tout cas, personnellement, j'avais envie d'y croire. Et j'ai envie de me dire, franchement, l'idée, moi, je la trouvais assez intéressante. Parce que je trouve assez marrant son concept et la façon dont il l'exploite jusqu'à présent. Ça marche bien. Effectivement, on attend beaucoup du tome 2. Et puis, il y a le travail graphique du duo Keras Koet, puisque les Keras Koet, sous un même nom, sont deux dessinateurs. Du duo Keras Koet qui est en fait graphiquement superbe. Il y a des séquences magnifiques. Je trouve qu'il y a vraiment des moments ultra marquants visuellement dans, où ils réussissent à créer des ambiances, des atmosphères, toute une scène qui se passe avec des sortes de stalactites ultra coupantes, où il y a vraiment quelque chose de
glauque. Cette scène dans le sort de palais des glaces,
je la trouve. Oui, le palais des glaces, qui est absolument magnifique et où effectivement on se rend bien compte que. Puisque c'est, comme tu en parlais là tantôt, Velman et les Grascoët avaient déjà collaboré sur un album dont tu as parlé lors de la toute première émission de Radio Grand Papier, qui était Jolies Ténèbres, un album absolument déroutant, d'une grande cruauté, sous une apparence visuelle très sage, très Miyazaki. On est dans un studio Ghibli, mais en oubliant qu'à l'arrière-plan, pendant toute cette bande dessinée, pourrit le corps d'une jeune fille, ce qui est absolument effrayant et ça ne cesse de croître. Donc effectivement, on sent qu'ils se sont trouvés autour de thématiques particulièrement sombres, crues, même si celui-ci est quand même beaucoup moins violent et noir que ne peut l'être Jolies Ténèbres. Jusqu'à présent, en tout cas, il y a une vraie, je trouve, une force assez claire qui marche très bien entre eux, qui est une force assez noire, sombre, cruelle, mais qui est captivante en même temps.
Moi, je trouvais qu'il y avait un côté un peu thèse dans la manière dont il explique beaucoup au début sur quel principe il va travailler les personnages. Et donc, du coup, tous les personnages invoqués dans l'histoire, un frère, un abbé, quelque chose, donc des personnages religieux, scientifiques, etc., sont mis en place. Et donc, on sent le côté un peu artificiel de la chose parfois, j'ai trouvé. Et du coup, on sent aussi l'artifice scénaristique de Velman. C'est la première fois que je le sens aussi fort qu'il prend un peu une espèce de technique un peu à la genre série américaine, genre on va faire un truc de ouf, on va placer un truc très loin, très dingue, et après hop, on va tenter de le faire tenir par l'histoire elle-même, par les personnages, par leur interaction, on va la rendre crédible et faisable. Et donc il y a un peu ce présupposé donc qui est toujours très drôle, parce qu'en effet c'est ce qu'on aime dans les séries américaines, genre c'est un mec, il était toujours honnête, et puis il apprend qu'il a un cancer, alors là il dérape, etc. Donc cette façon de construire, de pitcher à fond pour nous brancher dans une histoire et nous demander qu'on voit l'épisode suivant. Donc ce qui est notre cas ici, on dit on attend beaucoup du 2, etc. Donc il y a une forme d'accroche très très forte, mais dans celui-ci je l'ai senti assez fort de par les personnages qu'il invoque, la fille, la sœur très occupée à vouloir retrouver son frère pour des raisons affectives, d'autres qui veulent vérifier un truc scientifique, le troisième qui accompagne et sauve quelqu'un, etc. Donc il y a un côté un peu thésard de ce côté-là, et ça m'a un peu refroidi dans l'entrée. On a parlé de très fort de cette entrée de bouquin qui est un peu molle du cul à démarrer.
Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai l'impression d'être entré comme une sorte dans le château, l'attraction où il y a plein de personnages qui essayent de vous surprendre comme ça. La maison hantée, voilà. Je suis rentré dedans et je suis resté jusqu'à la fin. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des trucs un peu moins surprenants qui marchent un peu moins bien. Mais globalement, ça, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et dès le début, moi, j'ai pensé à Jules Verne. C'est peut-être une référence facile, mais Jules Verne, avec son côté un peu vieillot, parfois maintenant un peu dépassé dans les inventions et tout ça, et malgré tout, une manière de raconter les histoires, de raconter les choses, qui fait que on ne sait faire que être pris. En tout cas, chez moi, ça a marché vraiment comme ça. J'ai vraiment été pris dedans, pas au point de ne pas voir à certains moments des faiblesses, mais j'ai été pris, ça a marché. Et donc du coup, oui, en effet, moi j'ai envie de lire le 2 et j'ai eu du plaisir à lire cette bande dessinée qui me réjouit aussi, parce que c'est quelque chose qui en librairie peut être conseillé ou peut être lu par beaucoup de monde. Et ça peut à la fois attirer des gens qui lisent plus des trucs peut-être indépendants et tout ça vers quelque chose de peut-être un peu plus, je sais pas, mainstream. C'est toujours difficile d'utiliser des termes comme ça. Et à l'inverse, ça peut attirer des gens qui ont l'habitude de lire du 48 pages d'argot formaté comme ça vers d'autres choses. Donc pour ça aussi, je trouve que c'est une bande dessinée passerelle.
Tout à fait, mais je dirais même plus, voilà. Je trouve que Aujourd'hui, dans les scénaristes français, Fabien Vellman, c'est sans doute une raison pour laquelle j'admire le plus, a cette capacité d'être un auteur qui, dans son œuvre en général, essaie de faire plus des passerelles. Il travaille que soit dans l'alternatif ou dans le grand public. Il faut savoir qu'il a repris Spirou, les aventures de Spirou et Fantasio depuis deux albums, par exemple, de faire du très grand public et de pouvoir proposer ce genre d'œuvres qui sont à la fois, je trouve, parmi les plus intéressantes qui se font dans le mainstream, parce que voilà, c'est effectivement, comme tu le dis, du récit accessible à un très grand public, mais qui apporte derrière, je trouve, des choses bien plus passionnantes que dans 80% de la production mainstream franco-belge, parce que je trouve qu'il y a, même s'il y a un côté très thèse à la base, au moins, je trouve que Fabien Vellman en a, ce qui n'est pas le cas de la plupart des récits qu'on peut malheureusement lire aujourd'hui. Il a un fond, il a une réflexion, il a effectivement un talent pour raconter ces histoires. Il s'entoure de très bons dessinateurs et de très bons auteurs avec lui. Donc je trouve qu'effectivement, il fait partie de ces auteurs qui font un peu bouger ce que J.C. Menu appelait le 48cc, le 48 pages cartonné couleur, qui a tendance à toujours s'enfermer dans des recettes faciles, alors que lui, il donne vraiment l'impression de s'amuser à essayer de tirer les gens un peu ailleurs de leur lecture classique.
En plus, peut-être pour le défendre avec juste une phrase tirée de la bande dessinée, peut-être que dans cette bande dessinée-ci, son talent est un petit peu plus, entre guillemets, l'air de rien que dans d'autres qui sont, où c'est plus évident, l'originalité, la structure narrative est plus bizarre. Celle-ci est plus profil bas, mais à un moment donné, elle se souvient d'une discussion avec son frère où son frère lui annonce qu'il s'en va et qu'il ne l'emmène pas encore. Et elle dit « Mais ils me détestent tous ici, au village, même les autres roues me jettent des pierres ». Et je me suis arrêté sur cette phrase-là en la lisant parce que je me suis dit, en fait, c'est l'air de rien, mais c'est très fin sur tout ce que ça cache derrière. En une phrase, elle dit toute sa vie au village en attendant son frère. Et en plus, cette rousseur est un élément narratif très fort et plus tard. Donc je me dis, à cet endroit-là, il a installé quelque chose, l'air de rien, et ça refonctionne très bien plus tard. S'il y a des faiblesses dans le récit, à mon avis, mais il a quand même beaucoup de talent sur des petites choses comme ça.
C'est une des parties du scénario qui m'a le plus intéressée, c'est l'histoire personnelle de cette fille, en fait, qui est quasiment l'héroïne. Et c'est là où on a quand même un peu la cruauté de Vellman qui ressort, parce que c'est un peu récurrent, j'ai l'impression.
Tout à fait, lors d'une conversation Facebook avec l'ami June, il avait signalé... Parlons de Mylène Farmer, et j'ai ressorti cette phrase, parce que Mylène Farmer, je crois, a dû acheter l'album, puisque... Elle était fascinée par ce personnage de Rousse qui même les roues jetaient des pierres. Reparler de June et refaire une couche sur PFC.
C'est en effet un personnage plus qu'intéressant, mais on doit s'en tenir là aussi parce que sinon on va révéler une partie,
partie
du livre. Mais voilà, Herbert Léonard, Mylène Farmer. Voilà, on va enchaîner sur la nouveauté suivante, mais qui nous permettra certainement de parler de peut-être Sacha Distel ou de je ne sais qui. Oui, mais il ne bat que pour vous d'Isabelle Pralong. Qu'on a reçu, et moi je dois bien dire que en le lisant, j'avais l'impression de découvrir, en fait pas en lisant ce bouquin-là, mais en lisant juste après L'éléphant, qui nous avait été conseillé.
Par June, justement.
C'est formidable, j'espère qu'il nous entend.
Lors du premier PFC, voilà. Il avait conseillé ce bouquin, cet excellent bouquin.
Et donc en lisant un peu ces deux bouquins, dans un intervalle très court de temps, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur un auteur que je connaissais de nom, parce qu'on avait un peu évoqué le fait de chroniquer Prédiction ici à l'émission, donc qui est un bouquin qu'elle a sorti avec Aurélie William-Levaux chez Atrabile en juin. On en avait parlé, finalement, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Quand on avait été assis hier pour faire une émission là-bas, il y avait une expo sur ce bouquin-là, donc... Mais bon, voilà. Et donc ici, en lisant ces deux bouquins, j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir comme ça un nouveau travail, un ton, un style particulier, un univers. Alors pour revenir vite fait sur le « Oui, mais il ne bat que pour vous », vu que ça, c'est la nouveauté. L'éléphant, paru chez Vertige Graphique, lui, ça date déjà d'il y a 4-5 ans, je crois. Donc le oui, mais il ne bat que pour vous. En fait, c'est comme elle le note dès le départ, c'est librement inspiré en fait d'un poème qui s'appelle Pièce de cœur d'Einar Müller, qui est un dramaturge, poète et anarchiste est-allemand qui a commencé à travailler après-guerre jusque dans les années encore 90. En fait, elle a couper ce poème en phrases, en strophes, et en a fait des thèmes de chapitres qu'elle s'est réappropriée complètement pour parler en fait de sortes de tranches de vie. Alors il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, il y a des choses très réalistes, hein, l'histoire de sa sœur par exemple qui s'occupe des petits gamins d'une voisine. Il y a des histoires vraiment, des trucs très concrets avec une vieille personne qu'elle rencontre dans la rue, qu'elle accompagne à l'hôpital. Il y a l'histoire centrale de ce personnage qu'on retrouve aussi dans l'éléphant. Alors c'est une sorte d'autobio, mais d'une fausse autobio, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc ce personnage qui a des envies de maternité, donc il y a comme ça des choses très réalistes, très liées à la vie quotidienne. Et puis il y a des sorte de rêve éveillé qu'on va retrouver aussi dans l'éléphant, avec une sorte de grand-mère qui a des guêpes sur sa tête. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très différentes. Donc au final, un bouquin comme ça un peu éclaté en séquence, en petite scénette, je dirais. Pas toujours d'une égale qualité, mais j'étais finalement assez convaincu par le bouquin, dans le sens où pour moi tout ça forme une cohérence à la fin, tout ça arrive finalement à former pour moi vraiment un bon bouquin. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup plu, aussi bien dans l'éléphant, dont on va peut-être parler un peu après, que dans ce bouquin-là, c'est que pour moi, ce sont deux bouquins très généreux. C'est des bouquins dont on sort avec un plus, je dirais. Moi, j'avais... C'est pas uniquement le fait d'avoir été touché par ce qui s'y passe, mais j'ai l'impression que Isabelle Pralong arrive à passer quelque chose, à donner quelque chose au lecteur. Et donc, je ressortais de ça avec quelque chose en plus dans mon bagage, je dirais. J'ai sans doute plus apprécié l'éléphant aussi. Je le trouvais peut-être plus costaud, plus ramassé que le « Oui, mais il ne bat que pour vous » qui est peut-être un peu plus diffus, qui se perd un peu plus. Mais voilà, j'ai ressenti dans ces deux bouquins-là, en tout cas, vraiment beaucoup de générosité et beaucoup de choses qui passaient. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que là, j'avais vraiment l'impression de découvrir quelqu'un, une manière de faire passer les choses dans le dessin, dans l'univers. Et ça m'a vraiment beaucoup plu.
Elle a une manière d'installer une forme de familiarité avec ses personnages qui fait qu'on colle tout de suite au petit bout de vie qu'elle raconte.
Une incroyable justesse dans les dialogues, dans le choix. On est une mère.
Alors que le dessin, il est raide, il est parfois un peu pauvre, et pourtant ça passe très bien, donc je ne sais pas où ça se situe, je n'ai pas trouvé si c'était le dialogue ou parfois juste les tout petits changements d'expression, parce que c'est souvent elle qui est dessinée, enfin elle, le personnage principal. Mais
la notion de familiarité, je trouve, est vraiment terme.
Que ce soit dans l'éléphant ou. Enfin, l'éléphant, dès le début, tu as une énorme empathie pour elle, en fait. Mm-hmm. Et je trouve que dans Pralong aussi, que ce soit pour elle, pour sa sœur. Pour sa mère, qu'on voit peut-être dans 10 cases à tout casser, mais tout est assez immédiat, donc ça fonctionne. Les enfants sont ultra vivants, je sais pas, on a l'impression d'être assis avec eux, c'est assez...
Oui, pour revenir aussi sur ce que disait Philippe, je trouve qu'on a le sentiment de... En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment, comme j'ai eu quand j'ai découvert, par exemple, le travail de Joël Naelgren, de me dire, mais comment... Je ne pouvais pas encore connaître cet auteur. D'un coup, ça me semble une évidence que ça fait partie de la famille des auteurs que j'apprécie directement, où j'ai l'impression que ces bouquins, je les connais depuis des années et des années. Enfin, il y a une immédiateté, une familiarité, comme tu disais, Johanna, qui est très forte et qui m'a tout de suite bouleversé, effectivement, pour reparler de l'éléphant, qui est un récit... où elle va évoquer, donc d'un coup, elle n'a jamais connu son père, et d'un coup, on va la prévenir pour lui dire, voilà, votre père est dans le coma, il est dans un hôpital, et elle va devoir faire la démarche, décider d'abord si elle va aller le voir ou pas, cet homme qu'elle n'a jamais connu, parce que c'est pas son père pour elle, puisqu'il n'a jamais été présent, et de voir comment va s'installer finalement cette relation autour d'un homme couché dans un lit, et ce que ça va faire sur elle et la bouleverser au plus profond d'elle-même, avec des séquences absolument, absolument sublimes. Il y a une qui est tout à la fin et que je ne vais pas révéler, mais où on est un peu dans l'oxymore, une scène d'un coup où il y a une sorte d'énorme éclat de rire au moment où on ne devrait pas rire, et qui est absolument bouleversante. Moi, d'une simplicité, je trouve qu'on est dans des récits comme Les Attentes de Jason ou d'autres qui sont très courts, très simples, très sobres. On n'a pas d'esbrouf, on va à l'essentiel, et quand on arrive à la fin, on a une sorte de décharge émotionnelle qui est là, et où tout est tenu du début à la fin. Je trouve ça absolument incroyable. Franchement, L'éléphant fait partie des très très belles découvertes que j'ai faites en BD ces dernières années.
Mais dans ces récits, il y a toujours quand même une forme de joie qui surgit. Mm-hmm. Quand bien même elle flippe, quand bien même il y a de la détresse, c'est pas quelqu'un qui va tomber dans un truc un peu pathos.
Oui, tout à fait. On n'est pas dans l'autobiographie larmoyante qui sévit de plus en plus.
Il y a une énergie assez forte.
Apportée par l'extérieur, surtout hein, les enfants qui obligent à reprendre sur soi.
Oui, mais elle est très réceptive à tout ça.
Oui,
du
ça.
Coup.
Elle se fait presque passeuse. Moi, j'ai l'impression, quand j'avais je disais très généreux comme ça, j'ai l'impression qu'elle se fait en effet passeuse. Il y a ça aussi dans Oui, mais il ne bat que pour vous. Il y a des séquences où il y a cette rencontre avec ce vieux fermier qui raconte un peu toute son histoire et qui leur passe ça. Et elle nous passe ça finalement. Et donc, on le reçoit comme ça. J'ai vraiment l'impression comme on reçoit des paquets comme ça.
Au niveau, il faut parler un peu de l'objet. En fait, j'ai l'impression que bon, donc on a ces deux livres dans le studio qui sont L'éléphant et Mais il ne bat que pour vous. Et on a l'impression que la forme qu'a ce livre qui est sorti à l'association Mais il ne bat que pour vous aurait dû être celle de L'éléphant, puisque c'est un grand livre, c'est vraiment un des plus grands de la collection qu'on peut trouver chez l'association. Des feuilles très très épaisses,
beaucoup de pages perdu pour moi, enfin je
beaucoup
comprends
de pages
pas
perdues,
très bien.
Donc un bouquin très ostentatoire comme ça, et alors que L'éléphant chez Vertige Graphique est un petit livre un peu plus pisseux, des pages un peu trop jaunes, une couverture un peu trop souple, quelque chose qui est un peu ingrat au niveau de la forme, avec une couverture toute grise, alors que le Mais il ne bat que pour vous est une couverture rouge sans très agressive. Et en termes d'importance, pour moi, de fait, ils sont assez inversés. Autant L'éléphant est une marqueterie, au sens où les pièces s'emboîtent parfaitement, même dans l'aspect incohérent et un peu cassé de cette histoire, ce père qui surgit de nulle part, cette vie de famille, ce rapport à la mère un peu, et à tous les personnages, ce mec absent, etc. Donc, et au milieu de tout ça, les enfants qui produisent une forme d'énergie qui la tient debout. Et plus le récit avance, plus cette marqueterie, enfin cette chose qui semble éclater, en fait, se reconsolide pour devenir quelque chose d'extrêmement construit vers la fin. On se dit, putain, mais ce récit, il est construit comme un bon Frank Miller, pour revenir à un bon. Donc, les choses placées sont exploitées. Il y a une justesse, une façon de ce qu'on appelle le paiement en écriture scénaristique. Donc, le petit truc qu'on a installé qui semble rien, d'un seul coup, bouffe, nous bouleverse d'émotions. Donc, quelque chose qui est très fort. Là où Mais il ne voit que pour vous est un récit, on l'a dit, assez éclaté, Philippe, et dans lequel on a du mal à trouver quel est le point nodal de tout ceci. D'autant plus qu'en effet, il y a beaucoup de pages vides qui sont là pour séparer les récits entre eux. Il y a ce récit à la fin de il y a ce morceau cette scène de cinéma qui est découpée, surdécoupée, puisqu'on a une case par page à un moment donné. C'est quelque chose qui aurait dû être ramassé en deux planches et d'un seul coup éclaté sur un très grand nombre de pages, de manière de nouveau un peu ostentatoire. Et donc il y a là, j'avoue que moi j'ai lu d'abord Mais une bague pour vous et ensuite L'éléphant, et la force de L'éléphant m'a surpris, d'autant que elle est beaucoup plus investie aussi au niveau plastique. J'ai trouvé que Mais une bague pour vous est plus pauvre au niveau de la recherche. C'est quelqu'un qui a des difficultés à dessiner, qui a un dessin un peu ingrat, parfois très malhabile, mais L'éléphant transcende ça parce qu'elle s'autorise, par exemple, simplement quand elle découpe des scènes en voiture, la manière dont elle dessine ses voitures est parfois plus maladroite, mais inventive, alors que dans Mais il ne bat que pour vous, il y a des scènes en bagnole où elle évoque la voiture avec un trait et puis quatre petites hachures au-dessus, et on dirait qu'elle a dit, allez, emballer, c'est peser. Et là j'étais un peu frustré par ça, d'autant temps qu'on a ce grand livre aux pages épaisses qui nous dit « Regardez, ça a de la charge ». Et on se dit ben, « elle n'a pas la charge qu'on attendrait de la part d'un bouquin aussi gros ».
Tout à fait, je crois que c'est ce qu'aurait dit David Lieben s'il avait été sur, à l'émission avec nous, puisque je crois qu'effectivement son cœur aurait penché pour l'éléphant plutôt que pour le grand bel objet de...
Et donc on a l'impression du coup au final que l'éléphant est un bouquin qui a fait prendre conscience qu'on avait là un auteur, et que du coup l'association s'est dit « Ok, ton prochain bouquin, on le publie », et que du coup ce prochain bouquin... plus faible, a droit à une exposition plus forte, là où en fait il est plus faible, dû au fait, en fait, je crois simplement, que de la puissance de l'événement qu'elle raconte. Et là, on rejoint le problème de l'autobiographie. L'éléphant raconte un événement très très fort dans sa vie, très signifiant, et qu'elle le restitue. Son écriture est en fait très dépendante de l'événement qu'elle raconte. Et dans Mais il n'est pas que pour vous, ce lien est délié parce qu'elle est moins impliquée dans les choses qui lui arrivent, sont de moins grande charge. Et donc, du coup, on a un récit qui est plus pauvre, dû essentiellement à ça, parce qu'elle se laisse guider par les récits qu'elle raconte, et parfois il pisse un petit peu à rien, se rattrape
un
peu.
C'est un spectre plus large, mais du coup, ça aurait été intéressant de voir peut-être une construction différente, ou en tout cas un objet différent, déjà, tout simplement.
Ouais, 4 cm plus petit. Voilà.
Ça aurait
pu l'objet pourrait être différent. Maintenant, pour revenir... Tu es présenté comme tu le présentes, effectivement. Mais il ne bat que pour vous, semble très très faible. Ce qui, pour moi, pour reprendre sa défense, je dirais que moi j'ai vraiment été emballé aussi par le bouquin. Je trouve qu'effectivement il n'y a pas la même force parce qu'on n'est pas dans la même tonalité, on n'est pas dans le même sujet. Je trouve qu'effectivement pour ça tu as raison. Maintenant, je trouve qu'il y a une vraie poésie qui se dégage de séquences. Il y a vraiment des moments que je trouve absolument forts et magiques. On est vraiment en présence d'un auteur avec un univers qui lui est propre et dont elle sait vraiment bien parler. Donc je trouve qu'effectivement le choix au point de vue de l'objet était un peu malheureux. On n'est pas effectivement dans la même tonalité ou dans le même type de récit, mais je trouve que l'album a vraiment de grande qualité.
Mais je trouve intéressant, Stéphane, que tu reparles de Frank Miller, parce que au-delà du fait qu'une seule page de Pralong pèse plus lourd que tout le Frank Miller réuni, c'est presque sur du papier bible tellement c'est fin. Moi, je conseillerais de ne pas lire le Pralong après le Frank Miller comme je l'ai fait, parce que je suis arrivé au bout du Pralong, j'ai eu l'impression d'être devant un oignon, c'est-à-dire elle a tellement mis de couches, de sens entre ces exergues, ces chapitres, plus les parties oniriques avec les animaux que je trouve très beaux, le tigre, je trouve magnifique, par exemple, plus les parties où elle parle avec sa sœur et cet enfant de voisine qui vient, et plus la grand-mère, plus... Il y a de plus Gina Rowlands qui vient dans Opening Night.
C'est vrai qu'il y a
une scène incroyable. Moi, je l'ai trouvé super.
Du coup, moi, je suis arrivé au bout et je me suis dit, bon... Alors, je vais devoir le relire en étant très attentif, ce qui, après le Frank Miller, n'était pas possible, parce que Frank Miller venait de me dire, surtout, arrête de réfléchir, tuons tous les terroristes et les musulmans avec s'il le faut. Et puis là, j'ai Pralong qui me dit, bon, tu vas devoir réfléchir, et tu vas devoir me relire 2 ou 3 fois avant de vraiment bien...
C'est marrant, parce que moi, je ne l'ai pas pris dans un sentiment de réflexion, je l'ai pris juste le plaisir de la séquence pour elle-même, sans me dire qu'il fallait que je comprenne quelque chose de supérieur à la fin.
Le problème, c'est l'exergue.
Moi, je l'ai...
On est quand même dans l'émotion ténue, quoi.
Intégrer aussi. Moi, le titre de chapitre, j'arrivais jamais à l'intégrer avec ce qui suivait. À la fin, je me suis rendu compte que, ok, ça faisait sens, tous réunis, plus Gina Rowlands, plus... Et,
je pense que c'est pas pour rien qu'elle réécrit le poème en entier à la fin. Je crois que moi, ça m'a permis un peu de remettre les choses aussi dans l'ordre. Mais sur le moment, c'est pas évident.
Moi, je l'ai lu 2 fois et j'ai eu plus de plaisir à la seconde qu'à la première fois. La première fois, j'étais un peu perdu. Et la seconde fois, j'ai trouvé plus de sens aussi et je me suis un peu plus approprié justement les titres de chapitres qui composent ce poème et tout ça. Donc, je crois que ça aussi, l'air de rien, ça fait partie pour moi plutôt d'une qualité de ce bouquin-là. C'est qu'il est éclaté, ça pourrait paraître un défaut et ça l'est, je crois, en partie. Mais d'une autre manière, vu d'un autre aspect, ça fait aussi pour moi une sorte de qualité avec un objet qui peut être lu dans parfois, j'irai pas à l'envers, mais en tout cas d'une autre manière peut-être que scrupuleusement dans l'ordre qu'il est présenté comme ça et, donc voilà. Mais et Johanna, pour conclure,
non, on disait qu'au niveau du dessin ça pouvait être maladroit et un peu pauvre parfois, mais en fait je trouve il y a un tour de force, c'est que au final moi j'ai quand même beaucoup aimé le deuxième aussi. Et ce que j'aime,
deuxième,
c'est
que... Deuxième qui a « Oui, mais il ne va que pour
voilà,
vous ».
Voilà, le bouquin de l'assaut. Ce que j'aime, c'est qu'en fin de compte, c'est, ce dessin, c'est un peu comme un visage disgracieux de quelqu'un qu'on finit par connaître et qu'on finit par aimer. C'est que ce dessin, au final, maintenant, c'est fait. J'aime ce dessin. Alors que, par exemple, pour Prédiction, je n'étais pas du tout emballée, mais pas du tout, quoi.
David Liebens est vraiment sur ce plateau.
Et je rebondirai là-dessus pour clôturer. Moi, j'ai relu Prédiction après avoir lu ces deux-là.
Je ferai bien ça aussi.
Voilà, alors que je l'avais lu au mois de juin parce qu'on en avait parlé. Et ça m'intéressait, il y avait des choses, mais je le relis différemment maintenant. Et je l'ai beaucoup plus apprécié maintenant, en distinguant, du coup, en reconnaissant plus le travail d'Isabelle Pralong graphiquement. Je l'ai mieux identifié, donc du coup, je le voyais plus en... Enfin, je le voyais mieux mélangé ou parfois pas mélangé avec celui d'Aurélie William Levaux. Et du coup, ce bouquin que j'identifiais mal en juin avait plus de sens pour moi maintenant ici en le relisant. Donc voilà, c'était pour moi un peu la conclusion, c'est que c'est l'occasion aussi peut-être de repasser à ce bouquin Prédiction qui est pas nécessairement facile non plus, ouais. Paru chez Atrabile en juin. Voilà, on va s'écouter un peu de musique. Donc Zach Sally, dont j'avais parlé là tantôt, l'ancien excellent bassiste des non moins excellents Low, qui maintenant fait de la musique plutôt tout seul. Il a arrêté Low parce que justement il fait de la bande dessinée. Il était à PFC aussi. Merci June encore.
Oui, il racontait aussi, quand on avait discuté au Coq ici à Bruxelles, il disait qu'il avait aussi arrêté de travailler avec Low parce qu'il avait besoin d'un contrôle total sur ce qu'il faisait et que là c'était pas possible. Et donc là, les nouveaux albums qu'il a fait, non seulement il a joué tous les instruments, mais mixé et pressé quasiment à la main les CD, mais aussi fait la couverture, d'ailleurs le design de la couverture, et imprimé tout ceci sur une machine offset qu'il a dans son atelier à lui.
Il a fait sa propre maison d'édition et qu'il imprime lui-même tous les bouquins de cette maison d'édition.
Et il est son propre imprimeur, donc un truc un peu de dingue, il faut le dire.
Le rêve américain. Le self-made man.
Le self-made everything man.
Allez, c'est parti. Why We Hide.